Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaidou.
Nous sommes en direct, vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Et ce soir, nous sommes en équipe très très réduite. Il manque une bonne moitié. Mais en soi, c'est pas grave. Il y a ce bon vieil Olivier Scaras qui est avec nous. Olivier, comment vas-tu?
Mais ça va très bien. Et toi-même?
Oh bah écoute, ça va. On fait aller. Et on a un invité un peu particulier pour partager le sujet du soir avec nous. Quentin Bénien. Comment vas-tu, Quentin?
Bonsoir Benoît, bonsoir Olivier, ça va très bien et vous?
Ça va. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet ce soir. Malheureusement, Laurent et Jerry n'ont pas pu être parmi nous. Mais en soi, c'est pas grave, on se démerdera sans eux. Donc, ce n'est pas la première fois, on a un peu l'habitude qu'il y en ait toujours l'un ou l'autre qui manque. Quentin, petite question pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'effectivement, il y a encore des gens aujourd'hui qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? D'où viens-tu? D'ailleurs, il me semble que tu n'es pas dans le même pays que nous deux. Alors, on est tous les trois dans des pays différents.
J'ai la sombre contrée qu'on appelle la Belgique.
Oui.
Alors, avant tout, je suis d'abord collectionneur de rhum. Ça fait quelques années déjà que j'achète, que je déguste et que j'empile les bouteilles. Et donc, ici, très dernièrement, c'est moi qui ai repris le commerce de Hubert, donc Corman Collins Sérum à Bâtisse en Belgique.
Ok. Cet endroit vénérable.
Et donc, tu dis que tu collectionnes depuis un certain nombre d'années maintenant. Tu n'es pas obligé de répondre à la question, ça reste très indiscret, mais quand tu parles de collection, parce que c'est finalement le sujet de ce soir, on n'aura pas de news puisque Laurent n'est pas là, donc on rattrapera toutes les news pour la prochaine
45 minutes.
Voilà. Ta collection s'élève à combien de bouteilles?
Alors honnêtement, je n'ai pas
tu n'as jamais compté.
Compté.
Ça, c'est bon signe, ça. Quand on arrête de compter, c'est qu'il y en a beaucoup.
Est-ce que c'est pas le moment où il y en a trop?
Ah oui, probablement.
Est-ce qu'il y a un jour il y en a trop?
Bah non,
c'est une autre question. Est-ce qu'il peut y en avoir trop?
Tu penses qu'il y en a trop, mais qu'on s'en rend pas compte? Parce que si on s'en rendait compte, on arrêterait, effectivement.
Oui.
C'est un petit oui.
Tu achètes des étagères.
On a un certain nombre de personnes qui nous suivent déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur la Confrérie du Rhum, et qui laissent des commentaires. Salut à tous. N'hésitez pas à interagir pendant cette émission avec nous si vous avez des avis à partager ou même si vous-même pouvez répondre déjà aux premières questions posées à quand est-ce qu'il y a trop de bouteilles et dites-nous vos collections. Est-ce que vous êtes collectionneur déjà? Et puis, à partir de quand a-t-on trop de bouteilles dans sa collection? Voilà.
Donc, on compte les samples ou pas?
Non.
Si on fait les collectionneurs de samples en même temps, on va jamais s'en sortir.
Mais Oli a contribué à mes achats de samples.
Oui, je suis désolé.
Alors, effectivement, un sample, après, peut éventuellement amener à l'achat d'une bouteille. Ça arrive souvent, mais non, on va pas compter les collections de samples qui sont pour le coup encore pires, je pense. En fait, il n'y a rien de pire, je crois, que quand tu as vraiment plein de samples chez toi, que tu n'as pas le temps forcément de les déguster ou pas au bon moment, et puis ça s'accumule, et tu as plein de petites fioles comme ça, parfois étiquetées, parfois pas étiquetées, il y a des numéros, il y a des trucs dessus, tu ne sais pas vraiment d'où ça vient.
C'est l'angoisse, je suis d'accord.
Tu ne te souviens même pas de qui te les a donnés ou où est-ce que tu les as fournis, enfin c'est... Ça, pour le coup, c'est vraiment...
C'est vrai que les pas étiquetés, c'est quelque chose.
Ah ouais, n'empêche, ça peut être très intéressant parce que du coup, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me prête au jeu quand j'ai ce genre de sample, j'essaye quand même, comme un débile, de deviner ce que c'est.
Non, mais t'as raison. Mais...
Non, mais il y a zéro chance, on est d'accord. Il y a quasi zéro chance.
C'est quasiment impossible.
Surtout quand ça fait un moment que c'est là, il y a zéro chance. Je veux dire, t'arriveras peut-être à reconnaître un profil, quelque chose, mais c'est rare que tu devines vraiment. Et même si tu devines, personne ni rien peut te le confirmer.
Ah bah non.
Ah voilà.
D'ailleurs, puisqu'on en est au stade des définitions, c'était le débat qu'on avait eu avec Christine Lambert il y a quelques épisodes maintenant. Moi, ce que j'appelle collection, et d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Quentin là-dessus, est-ce que on peut considérer comme collection un ensemble de bouteilles, mais qui inclut des bouteilles qui sont désormais ouvertes? Ou est-ce que pour toi, si elles sont ouvertes, elles peuvent plus faire partie de la collection?
Si, parce que...
Ça fait plaisir d'entendre ça.
Quand tu ouvres une bouteille, je te prends l'exemple d'une bouteille comme un Enmore 95 de chez Vélier. Alors non seulement tu fais partie des chanceux qui les goûtent, mais tu as quand même la bouteille, tu as la boîte, elle a fait partie intégrante de l'histoire de ta collection. Donc oui, ouverte ou fermée... Après, il y a le débat, il y a des gens qui gardent les bouteilles vides. Moi, généralement, elles volent à la bulle, mais...
Il y a tout un marché autour de la bouteille vide aussi.
Oui, j'ai vu ça.
Il y a tout un marché autour de la bouteille vide pour les contrefaçons derrière.
Il y en a quelques-unes que je garde, et par contre, il y en a quelques-unes que j'ai souhaité acquérir.
Vide ?
Ouais, de manière un peu collectionneur. La Albion 83... alors j'avais le projet un peu fou de racheter tous les samples que je voyais passer pour remplir la bouteille. j'ai jamais eu assez de samples. Ça aurait été cool.
Alors justement, surtout que à force d'acheter des samples, je pense que ça te reviendra plus cher que d'acheter une bouteille complète. Alors justement, est-ce que la bouteille, une fois qu'elle est vide, peut encore faire partie de ta collection?
Pour moi, je la considère comme telle, c'est-à-dire qu'elle est au milieu de ses copines pleines ou ouvertes, donc pas encore vides, et elle a dans sa petite boîte, et effectivement, je ne la dénigre pas, je lui donne le même amour.
Olivier, toi, pour le coup, en termes de collection, on en est à combien de bouteilles environ? T'as arrêté de compter aussi?
J'ai arrêté de compter, mais en même temps, j'ai vraiment freiné les achats de rhum, donc je pense pouvoir dire... autour de 700 peut-être, un peu moins.
Bouteilles?
Oui.
Chez toi?
Non, justement, ce sera un des sujets de où est-ce qu'on range tout ce foutoir.
Ok. Très intéressant.
Ah non, parce que sinon, là, il y en aurait posé là, il y en aurait un là.
Tu nous mettras l'adresse en commentaire, s'il te plaît, pour les gens qui ont fait un détour par là ce soir.
Bon, chez moi, il n'y a plus que des bouteilles ouvertes, donc c'est pas très intéressant pour les voleurs, sauf si le voleur est très amateur de rhum, où là, bon, bah, il faudra qu'il se pose un peu pendant que l'alarme retentit, mais...
Par contre, j'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure avec la vente des bouteilles.
Vide.
Moi, je trouve que c'est un fléau, cette revente de bouteilles.
Ah oui, bien sûr.
Parce que forcément, il y a des gens mal intentionnés qui les re-remplissent et qui les remettent en vente
bien sûr.
Directement derrière. Donc,
en partant du principe qu'ils ne seront jamais ouvertes.
Ouais, et c'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui les balancent à la bulle dès que possible. Mmh. Je trouve ça.
Non, t'as pas tort.
Je trouve ça dommage, mais malheureusement.
Je sais pas ce qui est pire en fait, la personne qui vend la bouteille vide ou la personne qui l'achète pour la remplir.
Écoute, moi je les ai pas achetés. Les deux que j'ai, donc c'est Stalbion 83 et Leitwürth 85 de Vélier, c'est des mecs du coup qui m'ont questionné pendant quand même plusieurs jours. À dire « Pourquoi tu veux cette bouteille ?»« etc., etc. » Et c'est des gens qui ont fini par me faire confiance et qui, moi, j'ai juste payé les frais d'expédition. Les deux étaient italiens, donc depuis l'Italie, pour recevoir les bouteilles vides, je les ai toujours à la maison. Et c'est vrai que c'est des types qui m'ont fait confiance et, j'aurais pu très bien être un faussaire et effectivement faire une belle culbute avec ces deux bouteilles-là. Ouais, si tu les remplis et que tu mets juste un truc thermo-rétractable ou je sais pas quoi autour... Sur ces deux références-là, tu te fais un petit billet quand même.
Ouais.
Alors juste.
Il y a David. Vas-y, je te coupe.
Non, vas-y.
Il y a d'ailleurs eu une histoire sur un autre groupe d'amateurs avec une personne, bon, je ne citerai pas le nom, qui a revendu plusieurs fois une Caroline 92 Foolproof à l'époque. Je pense qu'il l'avait vendue 6 ou 7 fois à 7 personnes différentes, dont moi. que je n'ai jamais reçu. Et la personne qui a reçu la bouteille a quand même, en sentant l'oignon et toutes les personnes qui étaient un peu révoltées sur le gars en question, elle a ouvert. Et il s'est avéré que c'était du Jägermeister dégueulasse.
Wow. Donc le mec n'a même pas essayé
le truc. En même temps, avec des bouteilles noires, en même temps, tu mets dedans ce que tu veux, hein, ça ne se voit pas. Tant que tu ne le vois pas, ça ne se voit pas.
Oui, mais regarde, moi, je te dis un truc. Si demain, j'ai envie de mettre une culbute, je mettrais quand même un Demerara dans mon Albion 83, tu vois, histoire que si le mec l'ouvre, bah, en gros, il se fasse avoir parce que, comme il n'a jamais goûté l'Albion 83, il se dit « Ah, bah, c'est un goût de Demerara, ouais, c'est génial. » Mais tu vois, de là à mettre du Jägermeister, c'est vraiment le mec n'en a rien à foutre de personne, quoi.
J'aurais mis du café.
Ouais. Tu peux aussi.
Un litre de café, tranquille. Voilà, parce que même le Master, c'est cher.
Oui, c'est pas faux.
Alors, pour ceux qui rejoignent l'émission en cours de route, vous l'aurez compris, nous allons parler collection ce soir. Collectionneur, un sujet qui nous a été proposé par ce cher Olivier Scar. Je tiens à le préciser, puisque moi-même, je ne suis pas ou plus collectionneur. J'ai arrêté de collectionner il y a bien longtemps.
Oui, tu l'as été. Hein. T'as lubie des 87.
Oui, un moment, je me suis dit, ça commence à faire de trop. Voilà, ouais,
c'est bien, bravo.
J'ai eu ce truc et je me suis dit ça le jour où j'ai dû déménager, en fait.
Oui, souvent, on se rend plus conscience. C'est vrai que j'ai déménagé qu'une fois.
C'est à ce moment-là que j'ai dit stop. Voilà, ça n'en vaut pas la peine, ce n'est pas cool. Et du coup, voilà, je ne collectionne plus. Aujourd'hui, je bois, voilà. J'ouvre les bouteilles que j'acquiers ou qu'on m'offre ou autre. Et puis, à partir de là, une fois qu'elles sont vides, bah, pareil, je jette et puis c'est tout. Et puis, je passe à la suivante. Néanmoins, on va donner quelques conseils, on va se permettre d'aller voir vos conseils, en tout cas, concernant les collections, des conseils qu'on va donner à peut-être quelques collectionneurs qu'on peut avoir en dehors de ce petit podcast, pardon, qui nous suivent peut-être, ou qui écoutent cette émission. Tout d'abord, en termes de conservation, est-ce que vous avez des conseils? Comment est-ce que vous conservez vos bouteilles? Je vois Quentin. Alors Quentin, je ne sais pas si tu es à la boutique, si tu es chez toi. Je vois qu'il y a des bouteilles derrière toi.
Ou si tu habites à la boutique désormais.
Si tu habites désormais à la boutique. Il a vendu sa maison pour acheter la boutique.
Je pourrais habiter à la boutique. Non, je suis dans mon havre de paix à la maison. Ah,
donc les bouteilles qu'on voit chez toi, c'est ta collection privée. On voit derrière toi là. On voit quelques bouteilles.
Oui. Ouais.
D'accord. Comment, alors on en voit quelques-unes, mais comment est-ce que tu conserves tes bouteilles de manière générale? En termes de position, tu fais attention à quelque chose en particulier ou absolument
déjà,
pas?
Déjà, elles sont debout.
Tu ranges ça.
On peut remarquer quelque chose d'évident, mais debout.
Ouais. Ça, c'est l'évidence même, c'est la position verticale. Là, je suis dans la cave, donc c'est une pièce, je dirais, qui est entre 19 et 20 degrés, où il ne fait pas trop, trop chaud. Je mets pas forcément de parafilm sur les bouteilles parce que sauf si c'est vraiment des vieilles bouteilles où le bouchon a vécu, mais simplement vertical, à l'abri de la lumière.
Ah, je pense que
à l'abri de l'humidité aussi.
Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer pourquoi à la verticale, pourquoi à l'abri de la lumière, pourquoi à l'abri de l'humidité? Je pense que tout ça a ses raisons, hein, mais c'est très différent. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui achètent des bouteilles de spiritueux et qui vont vouloir les conserver comme des bouteilles de vin.
Ben oui.
On positionne horizontalement, pour la plupart. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas avec une bouteille de spi? Bon, ce soit du rhum ou autre. Hein.
Ben l'alcool spiritueux, et qui surtout, quand les degrés commencent à monter, attaque le liège. Et en plus, probablement... ça par contre je mets une réserve parce que je sais pas si c'est le cas, mais probablement influerait sur le goût du rhum, mais en tout cas c'est surtout que ça abîmerait le bouchon et que bah, vous risqueriez à mon sens tôt ou tard d'avoir une fuite et puis donc de perdre toute ou partie du contenu de la bouteille.
Exact. Et je confirme que le bouchon peut donner un goût à l'alcool. Ça m'est déjà arrivé sur des bouteilles de whisky, c'est pas souvent, mais ouais. Et en effet, la position verticale aussi, j'ai eu le cas sur des Clément de 52, je pense qu'à l'époque, ils en avaient beaucoup, et donc ils se tracassaient pas trop de la façon dont ils stockaient ça. Mm-hmm. Et j'ai déjà eu des cartons retournés, où il y avait plusieurs coffrets qui étaient à l'envers et d'autres coffrets qui étaient droits. Et donc, du coup, tu te retrouves avec une bouteille vide qui a fait plaisir aux anges, mais ou le bouchon n'a rien, le scellé n'a rien, mais effectivement, ça a complètement coulé hors de la bouteille. Et donc, il te reste un petit pont pour te dire qu'il a bien existé, mais malheureusement, donc, là, aujourd'hui...
Et donc, comme Morlin, tu peux avoir un goût de bouchonné, en fait, dans le spirituel.
J'ai déjà eu ça sur des bouteilles de whisky. Ça m'est encore jamais arrivé sur le rhum. Mais oui, je suis persuadé que c'est le bouchon de mauvaise qualité. Ça peut arriver d'avoir un côté un peu bouchonné. Donc,
en plus d'être collectionneur de rhum, t'es également collectionneur de whisky ?
Non. Je suis plus consommateur de whisky que collectionneur, ouais.
D'accord.
Mais... j'ai quelques bouteilles, mais c'est pas mon premier amour.
Est-ce qu'en dehors du rhum, tu collectionnes autre chose ?
Oh, j'ai collectionné beaucoup de choses.
on parle d'alcool, hein, on parle d'alcool. Si maintenant tu me dis que tu as une collection de motos chez toi, ça sera malheureusement hors sujet.
Le rhum, c'est vraiment ma passion principale.
Ok.
Et d'ailleurs, pour revenir sur les bouchons, on remarque désormais que de plus en plus de marques font appel aux bouchons un peu synthétiques. Hein. Je pense à Vélier sur les Libérations déjà depuis quelques temps, puis désormais maintenant sur nombre de bouteilles, et puis Naisson également, si je dis pas de bêtises.
Ça, c'est surtout lié, je pense, à la pénurie de bouchons, parce qu'on sait qu'un gros nombre de bouchons sont produits au Portugal. Et que le liège, comme toute matière naturelle, a besoin de temps pour pousser, et que la consommation...
Je pensais pas que c'était la cause.
On utilise des bouchons de liège, alors oui, pour les spiritueux, mais surtout pour le vin. Et que du coup, plus les quantités de production augmentent, plus il faut de bouchons, et qu'à un moment donné, il faut laisser le temps aux arbres de repousser. Quoi.
Bien sûr.
C'est de l'écorce après, hein. C'est de l'écorce, mais il faut laisser le temps qu'elle repousse, et les productions ont du mal à suivre à ce niveau-là.
Ok,
et puis, surtout pour ça qu'on aura tendance à essayer de trouver d'autres solutions, notamment, comme tu dis, les bouchons synthétiques. Alors après, on voit également des bouchons qui sont faits à partir de matières plus ou moins organiques, plus ou moins biodégradables. Je prends l'exemple de BD Trésor, par exemple, qui fabrique ses bouchons. Enfin, quand je parle de bouchons, je parle vraiment de la partie basse du bouchon, dans la bouteille, à partir de bagasse.
Ah oui, tiens.
C'est de la bagasse retravaillée.
C'est pas bête.
Pour en faire des bouchons, justement. Et puis, on aurait, alors plus dans le whisky, je pense, que dans le rhum, un retour du bouchon à vis.
Okay.
On a lu, qui était vachement à la mode à un moment donné. Christine a fait, il me semble, un papier sur le sujet, d'ailleurs.
Sur l'étanchéité, c'était pas foufou, hein.
Le truc, c'est qu'après, la matière reste disponible.
Oui, bien sûr.
Ah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on aura tendance, notamment avec la premiumisation du rhum, à utiliser plus en plus de bouchons en liège. Même sur des rhums blancs. On a un certain nombre de rhums blancs aujourd'hui qui ont des bouchons en liège, alors qu'à une époque, je te parle d'il y a 10-15 ans, jamais on
ne trouvait rhum blanc. C'est vrai. Vous ne voyez pas l'intérêt, c'est vrai.
Capsule en alu, pouvoir. Voilà, on ne se pose pas la question. Parce que c'était dédié à être bu directement et pas
à être conservé, quoi.
ni même à être joli, en fait. Ni même à être une jolie bouteille. C'est-à-dire qu'avec la premiumisation également, on utilise des matériaux plus précieux, des bouteilles avec des formes un peu plus avec plus de caractéristiques, un peu plus premium pour que ça ait un peu plus de gueule. Et du coup, le bouchon de liège reste quand même très premium à l'œil du consommateur, je pense.
Et j'entendais, quand tu as parlé du parafilm, donc je pense que tu parlais effectivement surtout autour des bouchons pour aussi rajouter de l'étanchéité. Il y a une question que je me suis posée lorsque j'ai déplacé ma collection dans une sorte de caveau, de chef, enfin bref, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, c'est de voir en fait plein de bouteilles de vin qui étaient filmées, mais cette fois pas au parafilm, mais vraiment au film étirable, en fait, dans un but de protéger l'étiquette, en fait, qui potentiellement pourrait se décoller ou pourrait se dégrader, pourrait être un peu comme on voit sur des très vieilles bouteilles de rhum martiniquais ou autres, les étiquettes qui sont un peu bouffées par le temps, quoi. Et voilà, c'est une question qu'on m'a aussi souvent posée. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Est-ce que tu le fais ou pas? Moi, personnellement, je le fais pas du tout. Mais après, c'est toujours pareil, si c'est conservé dans de bonnes conditions d'hygrométrie et de température, normalement, il n'y a pas de raison. Le seul risque, c'est effectivement que ça se décolle. Ça, je l'ai vu sur quelques bouteilles, où effectivement, je pense notamment aux boîtes en carton de chez Vélier, hein, des Demerara ou Caroni ou autres, où effectivement, t'as un liseré de colle tout du long et qui parfois s'ouvre et ton truc se met à bailler. Et bon, bah après, ça se répare assez facilement si tu as envie, mais c'est pareil, j'ai vu sur certaines étiquettes, sûrement une mauvaise colle qui fait que l'étiquette commençait à se barrer gentiment de la bouteille.
Alors, c'est pas vraiment un cas d'application pour tout ce qui est bouteilles qui sont restées dans le marché européen, pour la simple bonne raison que dans 90%, à part vraiment en Italie où il fait un peu plus chaud et en Espagne, les bouteilles sont pas soumises à des températures trop chaudes ou à un air trop rempli d'humidité. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines bouteilles que tu rapatries de Martinique où là tu vois qu'elles ont, elles ont bien vécu, que l'étiquette t'y a encore à la bouteille, mais elle est vraiment, on va dire qu'elle est, elle est au bout de sa vie. Et c'est principalement dû déjà à l'humidité qu'il y a en Martinique, au côté salat de l'air aussi. Et donc les étiquettes sont plus rongées, la colle va avoir tendance à se laisser aller. Donc c'est vrai que sur les vieilles boutiques les vieilles bouteilles martiniquaises, j'essaye de parafilmer un peu tout ça pour que l'étiquette reste en place. Mais je pense que tôt ou tard, l'étiquette ira rejoindre son créateur.
C'est probable.
Est-ce que tu conseilles éventuellement d'essayer de recoller les éléments qui décollent, que ce soit des étiquettes ou même des boîtes?
Non. Non, la boîte à la limite, parce qu'effectivement, les boîtes, comme dit Oli, de Vélier, des fois la colle est un petit peu approximative, donc pour le côté esthétique, oui. Mais pour les étiquettes martiniquaises, etc., des vieilles bouteilles, j'aurais pas tendance à pas aller remettre de la colle dessus, de peur d'abîmer l'étiquette plus qu'autre chose. Donc dans ce moment-là, c'est arrivé sur très très peu de bouteilles, mais je mets ça dans une petite pochette plastique que je mets à côté de la bouteille, histoire de dire de l'avoir. Mais non.
Ah, si elle est vraiment décollée, quoi.
Ouais, si elle est vraiment décollée. Tu peux encore essayer de la rechauffer un petit peu, s'il reste de la colle dessus. Elle va se remettre, mais voilà, de nouveau avec les vieilles bouteilles, je suis pas fan.
Ouais, surtout qu'après, ce sont des colles quand même assez particulières, c'est pas de la simple lulle sur
le marché. Ah oui, non, faut pas s'amuser.
Sur certaines bouteilles, c'est un peu demandé si t'as pas été collé avec de la sève d'arbre, parce que.
En fonction de l'époque d'où date la bouteille, effectivement, ça peut être le cas. Hein,
ouais. Non,
c'est pas toujours évident, mais oui, comme tu dis, effectivement, il y a l'humidité, la chaleur qui joue beaucoup. Dans certaines contrées, ça sera plus compliqué de conserver des bouteilles que dans
d'autres. Puis la lumière, qui décolore aussi énormément les étiquettes, qui altère le rhum, pour peu que ce soit une bouteille en verre transparent, en tout cas peu opaque. Et, c'est vrai que ça aussi, hein, c'est toujours la question qu'on me pose aussi, c'est comment je peux faire pour à la fois avoir un petit côté showroom de ma collection, pour moi le plaisir de voir des bouteilles directement et à la fois bien les conserver. Et c'est vrai que moi j'ai jamais réussi à trouver tellement de solutions, sauf vraiment effectivement dans une cave où là oui tu peux, parce que de toute façon t'éteins la lumière, il n'y a pas de lumière naturelle qui rentre et donc quand tu rentres t'allumes ta lumière artificielle et puis là tu peux profiter un peu. Tu peux profiter un peu des bouteilles que t'entreposes, mais là encore, tu vas être limité par la place, parce que t'auras que ton premier rang de chaque étagère. Donc, je sais pas si c'est pareil pour toi, Quentin, mais j'essaye toujours de mettre les plus belles bouteilles en visu. Et puis, plus on va dans le fond, moins c'est les top bouteilles.
Moins c'est sexy, ouais. Oui, bah j'ai mis certaines de mes belles bouteilles un peu en avant, mais comme tu dis, on peut pas tout mettre. Donc c'est vrai que des fois quand je trie, je tombe sur des choses. J'avais ça,
c'est bien.
Ça. Elle ressort de l'arrière de l'armoire, elle finit dans l'étagère. Ouais, mais je pense que tant qu'il n'y a pas de lumière directe, donc qu'on n'a pas un spot qui est dirigé sur la collection ou lumière trop chaude, il n'y a pas d'incident s'il fait lumineux dans la pièce. Là où c'est important et où il faut faire attention, c'est que par exemple, si quelqu'un te propose un rhum à la vente et que tu vois que la boîte est décolorée, bah, ça veut dire que potentiellement la boîte a été à la lumière du jour. Si elle a été à la lumière du jour, le rhum qui est dedans a chauffé, et s'il a chauffé,
c'est abîmé sûrement.
C'est pas une valeur sûre. Ouais. À moins que la boîte alors soit une boîte de récup, quelque chose comme ça. Mais
on est d'accord sur le fait que la lumière du jour, la lumière naturelle, peut avoir a un impact sur tout ça, mais que la lumière artificielle peut avoir un impact également.
Ah oui, oui, ouais, parce que t'as fait. Ça chauffe, hein, donc effectivement, comme disait Quentin, tu mets un gros spot, une grosse ampoule juste à côté, ouais. Là.
Faut mettre des LED.
Sinon, c'est ça, exactement. Puisqu'en plus, c'est très à la mode.
De toute façon, tu le verras, le rhum va attraper une couleur un peu trouble. Tu vas commencer à avoir un peu plus de dépôt dans la bouteille. Et à ce moment-là, ça arrive beaucoup plus vite avec les rhums sucrés. Tu verras.
Ah oui?
Ouais. Moi, j'avais Lucas à l'époque sur une bouteille de rhum que j'avais laissé traîner sur mon plan de travail. Le soleil a donné dessus. Effectivement, c'est tout de suite devenu beaucoup plus trouble. Ça s'est un peu plus vite oxydé, la bouteille était déjà bien entamée, et c'est vrai qu'au niveau du goût, tu le ressens. Alors, c'est pas buvable, mais c'est loin de la gloire passée du truc qui est dans la bouteille.
Alors, on a une question de la part de François Pignon qui nous demande si les lumières du jour impactent sur les blancs et les vieux confondus.
Sur les vieux, probablement. Les c'est blancs, vrai que sur les blancs, sais pas non plus. La question. Ouais, je me suis jamais vraiment posé la question. En général, les blancs sont bus
trop rapidement pour faire l'essai, en fait.
Là, faudrait demander à des partenaires martiniquais ou guadeloupéens qui sont sur le chat si jamais ils sont plus compétents que nous là-dedans pour répondre au niveau de la lumière.
Bah, ils vont dire la même chose, ils vont dire les blancs sont bus. En fait.
Ouais, c'est pas faux.
Après, on connaît deux, trois
collectionneurs. Il va sûrement y avoir des collectionneurs de rhum blanc.
Moi, je connais un collectionneur de canne bleue, je connais un collectionneur de longto, et donc forcément longto.
Oui, mais alors attention, parce que les bouteilles de canne bleue, pour la plupart, du moins les récentes, ne sont pas transparentes.
C'est vrai aussi.
Elles sont toutes soit une sorte de film autour décoratif, voire coloré d'une certaine manière, et même les premières, elles étaient c'était du verre givré,
ouais,
à une époque, ou bien bleuté. Enfin voilà, il y a eu différentes, chaque année il y a une bouteille différente, mais souvent ce sont pas des bouteilles complètement transparentes.
C'est vrai. Et puisqu'on en est à parler du stockage, on m'interroge, enfin moi ou d'autres, hein, mais en tout cas sur la confrérie du rhum, on voit souvent passer des messages de gens qui se demandent mais comment dans quoi stocker les bouteilles de rhum. Alors ça peut paraître un peu couillon, parce qu'on a envie de lui répondre dans des étagères, sauf qu'en fait légitimement on peut se poser, oui mais combien une petite tablette Ikea peut supporter de bouteilles, et est-ce que mes 4 picots en laiton à la con vont supporter ça, voilà, c'est tout un tas de questions pour moi, bien sûr. Et moi j'ai eu le malheur d'avoir eu un effondrement d'étagère, donc je connais très, toi aussi. Bon, je me sens moins seul. Je me sens moins seul, merci. Et c'est vrai qu'écoute, du coup, j'ai mis mon père sur le coup quand je me suis dit, bon, maintenant, il faut arrêter les conneries et les choses approximatives. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment penché sur la question. C'était quasiment, tu sais, du génie civil, quoi. Tu vois, on réfléchissait, mettre des équerres en plein milieu pour que, justement, ça puisse soutenir la tablette. Et puis, pareil, de chaque côté, enfin... truc, effectivement, tu pouvais mettre, je sais plus combien on avait calculé, et puis c'est pareil, du coup, c'était mon grand-père qui avait construit en chêne massif, je sais plus, ça faisait 1 cm ou 1,2 cm d'épaisseur, et il me disait, là, t'inquiète, hein, là, tu peux mettre, je sais plus combien de dizaines et de dizaines de kilos, ça tombera pas, et donc c'est vrai que ça m'avait tellement meurtri cette chute d'étagère, parce que j'avais quand même perdu un Clément 70 et un Edmore 95, puisqu'on en parlait tout à l'heure, que du coup bah je me suis dit bon bah plus jamais ça.
Ouais, parce qu'il faut pas oublier qu'une bouteille, après une seule bouteille, allez, quand elle est pleine on est à quoi, on est entre 1,5 kg et 3 kg, ouais, en fonction de la bouteille. Et quand on a 10, bah, ça fait tout
bien sûr
beaucoup de poids. Donc quand on a 700...
Bah, c'est surtout que sur une rangée...
Bon, déjà, ça fait une grosse étagère. Ça fait une très grande étagère, on est d'accord.
Non, c'est pas réparti de cette façon-là, mais effectivement.
Mais c'est des questions à se poser, effectivement, quand on a des collections qui commencent à être un peu importantes.
Ah, moi, je conseille ça.
Moi, si je peux donner un petit tip, c'est les Kallax Ikea, elles marchent du tonnerre.
Ça marche du tonnerre, effectivement. Bah, en même temps, t'as vu l'épaisseur du truc, le truc il fait 5 cm d'épaisseur.
C'est ça, et puis c'est censé être là pour des livres aussi, donc c'est déjà...
Ce qui est très lourd également, ouais, c'est ça.
Ouais, donc là, les Kallax, pour le coup, elle fait le taf. Faut pas la blader, mais si tu veux exposer des bouteilles, mettre sur une ou deux rangées, il n'y a pas de problème.
Bah, c'est vrai que quand on a beaucoup de bouteilles, la tentation, c'est de dire j'en mets le plus possible en profondeur, le plus possible en largeur, je les empile, je fais Tetris et tout, et c'est là où effectivement tu te mets dans la merde parce que au final, ça a vite représenté un poids délirant, quoi.
Alors, on parlait d'humidité tout à l'heure et je voulais vous poser la question si vous aviez éventuellement des astuces, si vous utilisez certains stratagèmes pour combattre les problèmes d'humidité. On peut retrouver parfois dans des caves ou en fonction de là où vous stockez vos bouteilles. Je sais que c'est un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup pour, notamment pour les cigares, pour le coup, qui, eux, ont besoin. C'est un autre domaine, mais où là, effectivement, c'est un vrai sujet. Parce que ça impacte directement le produit et pas que l'emballage. Alors, je pense pas que l'humidité ait un impact direct
sur le.
Mais plus sur l'emballage, effectivement, sur les étiquettes, peut-être sur les bouchons et les boîtes, bien évidemment.
Sur les étiquettes, surtout les étiquettes.
Ouais.
Moi, écoute, j'ai eu à creuser le sujet de manière urgente parce qu'en fait, ça nous fait un peu sauter les étapes, mais c'est pas grave. Lorsque je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de bouteilles chez moi, que je pouvais plus circuler dans la pièce où je les entreposais, mais également que s'il y avait un dégât des eaux et que s'il y avait ou un incendie ou un cambriolage, c'était la merde absolue, j'ai cherché effectivement le moyen de les stocker ailleurs que chez moi. Donc la première piste que j'ai eue, c'était des boxes de rangement. Tu sais, comme quand tu pars un an à l'étranger, un garde-meuble, quoi, tu vois, si tu veux, dans l'idée. Sauf que le truc était pas très sécurisant, c'était cher, bref. Et puis, du bouche à oreille, j'ai entendu parler d'un endroit, mais je crois qu'il y en a plusieurs en France. Là, ça s'appelle les Chais de France, à Issy-les-Moulineaux, et qui est en fait une ancienne carrière de craie, et qui est un endroit en fait pour entreposer le vin. Donc, autant vous dire que pour tout ce qui est stockage de bouteilles de vin, c'est le paradis, t'as une hygrométrie hyper élevée, il fait frais, c'est vraiment génial. Et du coup, l'endroit pour l'avoir visité, j'ai trouvé ça super, mais forcément, je me suis très très vite inquiété de me dire, mais quid de autant d'hygrométrie sur mes bouteilles, mes étiquettes et mes boîtes en carton? Donc, j'ai interrogé les copains qui avaient leurs bouteilles déjà depuis 1, 2, 5 ans, j'avais pas plus de recul que 5 ans, qui m'ont dit, écoute, on n'a jamais été emmerdé. Et certains m'ont dit, écoute, moi j'ai bâché par-dessus, d'autres m'ont dit, ah non, surtout pas, si tu bâches, potentiellement, ça peut emprisonner l'humidité et donc ça va faire de la flotte sur tes bouteilles en carton, ça va les flinguer. Et puis au final, là, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'elles y sont. J'y suis allé à 3 mois, 6 mois et 1 an.
Bâché ou
pas ? Au tout début, j'avais bâché. Et en fait, j'ai stressé, oui. J'ai tout débâché. Et effectivement, à 3 mois, 6 mois, 1 an, rien n'a bougé. Quand je touche les boîtes en carton, forcément, elles sont fraîches. Mais elles paraissent pas humides, mais elles sont fraîches, mais en même temps, parce qu'il fait, 9 ou 10 degrés dans le, enfin, plutôt d'ailleurs, 10, 11 degrés dans le lieu. Mais écoute, en discutant avec la personne qui gère ça, il m'a dit, écoute, franchement, si l'humidité avait dû attaquer l'étiquette et les boîtes en carton, ça l'aurait fait très rapidement. Et lui, il pensait même au bout d'un mois ou deux, t'aurais eu des dégâts. Là, il me dit, si au bout de 3 mois, si au bout de 6 mois, et qui plus est maintenant, au bout d'1 an, t'as pas eu de dégâts, il n'y a pas de raison que t'en aies plus maintenant, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais ça a été une très, très grosse source de stress pour moi. Parce que c'était vraiment l'inconnu, quoi. Donc, ça a été empirique.
Alors, justement, ça nous amène au sujet suivant. Concernant, justement, des box ou des chais de conservation privés ou... Enfin, je sais pas.
Alors, moi, c'est privé. Ouais.
Enfin, c'est une société qui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
Qui assure ça.
Je sais pas si Quentin, toi, de ton côté, tu utilises ce genre de service.
Non. Ouais. J'ai une bonne assurance, des caméras et une porte blindée. C'est déjà bien.
Une porte blindée sur ta cave ou sur ta maison? Sur la maison en général.
Non, sur la maison en général, mais en Belgique, c'est un peu particulier. On n'a pas. On n'a pas beaucoup cette culture du vin, donc on ne dispose pas de chais de vieillissement et des choses comme ça.
Ouais.
Mais il y a des assurances qui sont faites sur mesure pour les œuvres d'art notamment, et donc potentiellement aussi pour des collections de rhum. Et c'est vers ça que moi je me suis tourné Alors c'est un peu chaotique pour se faire assurer, parce que faut que les mecs comprennent que ce que t'en mets, ça vaut de l'argent, c'est pas juste une bouteille de rhum à mettre avec du coca. Et une fois qu'ils ont compris ça, ben ça va, c'est pas trop compliqué.
Alors, justement, là, tu vois, je suis d'autant plus heureux compter dans l'émission, Quentin, parce que justement, c'est la question qui revient le plus sur la confrérie du rhum. Est-ce qu'on peut assurer une collection? Si oui, comment, combien, etc. Et nous, en France, à ma connaissance en tout cas, ce n'est pas possible, ou quasiment pas possible. J'ai des amis assureurs, vraiment très bons amis, etc. On leur avait posé la question avec Jean-Paul, avec qui on partage justement notre espace de stockage, avant du coup de faire ça. Et en fait, il m'avait dit, tu trouveras peut-être effectivement via un assureur d'art, mais ça va être l'enfer. Il faudra qu'à chaque fois que tu rentres une bouteille, tu la déclares, qu'à chaque fois tu fasses une réestimation quasiment tous les ans, parce que forcément les cotes augmente tous les ans. D'autres qui me disaient, bah oui, mais en plus il te faudra ta facture d'origine, et comme dans une collection t'as beaucoup de seconde main, t'as beaucoup d'achats en secondaire, etc., comment est-ce que tu vas avoir des preuves de ce que ça vaut, etc. Donc voilà, mais en tout cas on m'avait dit, en France laisse tomber, c'est l'enfer, t'y arriveras pas. Et c'est aussi pour ça que on avait tout mis dans un endroit où on s'est dit, au moins le problème de l'assurance ne se posera pas, parce que ce sera l'assurance du lieu. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, de ton expérience, un peu toi, comment ça s'est passé pour assurer ta collection?
Alors, simplement, donc ce sont des assureurs un peu particuliers, c'est pas des assureurs tout venant, faut pas aller à AXA ou des choses comme ça, ce sont des gens qui font vraiment, qui assurent les produits d'exception, les œuvres d'art, etc. Alors le coût, ben, il varie en fonction de ce que tu assures, forcément. Moi, ça s'est passé simplement, ils m'ont demandé de leur remettre une liste de noms et de prix estimés. Mais n'étant pas capables eux-mêmes de contre-évaluer, ils ont eu besoin d'un expert. Et il se trouve que comme c'est mon boulot, ben, l'expert c'est moi, entre guillemets. Je leur ai fait les comparaisons en passant sur les sites d'enchères à l'époque, parce que bien c'est sûr. Ça pour moi ma référence.
Bien sûr.
En montant les trois derniers prix sortis, de faire une moyenne, et voilà, avec photo à l'appui, et ils ont suivi. Et il y a une réévaluation qui peut être faite, forcément à mes frais, quand je le souhaite. Si par exemple il y a des bouteilles qui montent beaucoup trop, que ça devient un peu trop touchy, et que j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose, ouais, je peux faire réévaluer, et à ce moment-là, ils calculent la différence et ils te font raquer fin du mois. Simplement, mais c'est faisable en Belgique. Alors après, c'est pas super facile, toutes les banques ne le font pas, tous les assureurs ne le font pas, mais c'est faisable en tout cas sous le nom art, on va dire. C'est comme de l'art, donc
bon, ouais. Il y aura peut-être quelque chose à creuser en France aussi, probablement, hein. Faudrait effectivement.
Alors justement, déjà que tu viens de dire le terme banque, moi, je me posais la question s'il y avait la possibilité de déposer des bouteilles dans des coffres, effectivement, dans une banque.
Oui, tout à fait. Le coffre, il est nominatif, donc tu mets ce que tu veux dedans. Il y a des gens, ils mettent des billets, des gens, ils mettent des bouteilles.
Des bijoux, des trucs, oui, voilà.
Voilà, donc le coffre. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que dans beaucoup de coffres comme ça, il fait très frais. Donc ça permet de ne pas avoir d'évaporation au niveau des bouteilles. Mais après, je ne connais pas le coût, je ne m'en suis jamais vraiment renseigné.
Ouais, mais j'imagine que ce genre de coffre n'est pas très grand, donc ce n'est pas forcément pour de très grandes collections non plus.
Tu peux avoir des grands coffres. Je pense que tu peux avoir des grands coffres. Je connais quelqu'un qui a quelques bouteilles dans un coffre, et je pense que tu peux avoir des coffres assez sympas pour du moins mettre, on va dire, une partie sensible de ta collection. Ce qui sera moins cher, forcément, parce que le coffre te coûtera moins cher qu'une assurance. Mais ouais, si tu as vraiment des bouteilles rares. Mais que tu t'es pas à l'aise chez toi, bah oui, pourquoi pas. Parce qu'il faut pas se mentir, il y a des bouteilles aujourd'hui qui atteignent des valeurs qui te permettent de bien te sortir des ennuis si jamais t'en as. Et que voilà, faut se prémunir d'un drame.
Oui, et puis que là, au contraire d'une assurance, t'as quand même la sécurité de la banque, j'ai envie de dire.
Voilà.
On parle d'une vraie banque où les gens viennent mettre de l'argent, etc. Donc c'est pas rien.
C'est ça.
C'était assez marrant quand j'avais posé la question au fameux chai où j'ai entreposé des bouteilles fermées, j'avais posé la question d'un éventuel cambriolage. Et en fait, le type a rigolé parce qu'il me dit, bon, supposons qu'il arrive à déjouer l'alarme, le système de surveillance, le double porte blindé, qu'il arrive jusqu'à votre caveau, parce qu'effectivement, c'est immense et il y en a partout, et puis vraiment, t'as un nombre de box qui est délirant là-dedans. Le type me dit, vous inquiétez pas, monsieur, c'est pas vos bouteilles qui seront volées, parce que, en termes de vin, laisse tomber toutes tes bouteilles de rhum, personne n'en aura rien à foutre. Tout le monde cherchera Romané Conti ou Petrus et repartira avec une caisse, en plus, sera moins lourd. Donc, voilà.
Oui, on voit ça, il y avait un reportage récemment sur le
plus gros collectionneur. Le fameux, je ne me souviens plus de son nom, mais ouais.
Et qui avait effectivement une petite collection de spiritueux, mais comparé à sa collection de vins, ça se perdait dans la masse. Et en fait, je pense que même un voleur chez lui n'aurait jamais, se serait jamais arrêté dessus. En fait, voilà, c'est complètement hallucinant. Donc, tu caches
au milieu du vin.
C'est ça. Énorme collection.
Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Même si c'est pas ma collection de vin, du coup, c'est un peu ça.
Pour les bouteilles ouvertes, la conservation des bouteilles ouvertes, vous faites comment? Parce que là, on a parlé essentiellement de bouteilles fermées.
Et oui, c'est le meilleur conseil. La boire vite. Non, après, voilà. J'avais un copain qui faisait un truc pas mal, c'est qu'il sauvegardait 10 centilitres de toutes ses bouteilles qu'il aimait bien pour les vieux jours. Comme ça, effectivement, même s'il la buvait vite, eh ben, il savait qu'il lui en resterait pour des jours plus vieux. Et également, si jamais au contraire, il la buvait lentement et qu'elle s'altérait un peu, bah, au moins, il était sûr d'en avoir une petite quantité bien conservée, quoi. Alors, c'est fastidieux, mais bon, c'était intéressant.
Dans un échange un peu petit, oui.
Tout à fait.
Après, je sais qu'il y a pas mal de... Alors oui, la boire vite, effectivement, c'est le meilleur conseil, je pense, une fois qu'elle est ouverte. Après, il y a des gens qui essayent quand même de gruger un peu, déjà en fonction du volume qui reste dans la bouteille, pour pas que l'air à l'intérieur altère de trop. Alors, je sais, on a vu pas mal de choses, on a vu, oui, de paraffiner éventuellement.
Les billes aussi.
On a vu, alors il y a le même système que. Il y a les billes, effectivement, qui rajoutent des billes en verre pour combler le volume perdu. Sinon, j'ai vu également des gens qui font. Alors, c'est un outil qu'on utilise plus pour les bouteilles de vin, pour extraire effectivement l'oxygène.
Ça, j'ai entendu du mal là-dessus, oui. Mais j'en ai entendu du mal.
Je sais pas comment ça s'appelle.
Je l'ai vu dans le vin.
J'ai entendu que certaines personnes l'avaient essayé sur l'ESPI, mais je ne saurais pas dire ce que
c'est. Je ne sais pas, ça c'est pareil, ça il faudrait tester ou avoir des témoignages.
Je
ne
sais pas si Quentin a une expérience
pour moi, non. Non.
Quentin
j'ai des bouteilles, je regarde dans les bouteilles que j'ai, il y a des bouteilles que j'ai depuis très longtemps, où il y a encore dedans, notamment une bouteille de Port-Morant l'Esprit, notre ami Tristan qui était à 59 degrés de mémoire. J'avais beaucoup beaucoup de mal à attaquer. Je pense pas qu'elle ait bougé d'un iota si je retourne dedans, parce que de nouveau la température ambiante est pas trop haute. La bouteille est pas ouverte et fermée fréquemment, donc voilà, l'air dans la bouteille au final qui rentre, c'est seulement quand tu ouvres et tu fermes ta bouteille. Donc si tu ouvres et que tu la fermes 60 fois d'affilée, que tu sors chaque fois un petit centilitre, bah oui, mais si tu ouvres généreusement avec des copains, que tu fais une dizaine de verres et que tu la refermes, même si elle reste là quelques années, je pense pas qu'elle va s'altérer beaucoup. Et même le cas échéant, si elle s'altère, il restera un tout petit fond dedans et c'est pas encore trop grave, sauf si c'est pour certaines bouteilles, oui, mais j'ai pas assez de recul sur la chose que pour...
Moi, sur certaines bouteilles, j'ai un peu flippé. Donc, arrivé à 20 centilitres, je les ai transvasées, justement, dans des grands centres de 20 centilitres pour qu'il y ait le moins d'air possible, parce que je dis quand même, ce serait trop con. Mais bon, écoute, là encore, c'est basé sur des suppositions. Moi non plus, j'ai pas de recul là-dessus. Donc, je me souviens, par contre, et Benoît, t'étais là, quand on avait vu... Marc Sassier chez Saint James en fin de dégustation.
On jetait plein.
Et qu'il avait voulu nous faire goûter deux trois breloques vraiment très très vieilles. Oui, et oui, bah, il y avait des bouteilles, c'était ouais. passé. C'est-à-dire vraiment, il y avait cette dissociation eau alcool, et tu avais l'impression que ça avait été dilué et autres. Et voilà, parce que.
Ouais, c'était affreusement plat, c'est parce ça. Que c'était ouvert. Alors,
a priori, depuis très, très, très longtemps, et avec vraiment quasiment plus rien dans la bouteille oui, non plus. Hein. Ça, Marc nous l'avait dit, mais. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'était intéressant de se rendre compte aussi de oui, ah merde, effectivement, tu peux avoir une bouteille flinguée, ça peut arriver.
Alors, j'ai un certain nombre de questions et de points à aborder, puisqu'évidemment, Olivier m'a aidé à préparer cette émission. Pour une fois que c'est pas moi qui prépare, c'est toujours. Et par contre, il y a un truc qui m'interpelle, comment lister sa collection intérêt-risque ? Olivier, il faut que tu m'expliques la question. Bah,
moi j'ai été agréablement surpris, et c'est pour ça que je me suis permis de mettre ça dans les points à soulever, par la création d'applications et puis de logiciels de stockage. Alors avant, moi de mon temps, je parle comme un vieux con, mais c'est pas grave, c'était les fichiers Excel, où tu mettais ligne par ligne toute ta collection.
Il y avait déjà Excel de ton temps
sur Minitel. Et écoute, c'était hyper fastidieux, ça faisait chier toute la terre. Donc moi, très vite, quand j'ai eu mon premier iPhone, je m'étais fait une note sur iPhone où je notais toutes mes bouteilles. Et puis en fait, effectivement, avec l'essor des applications, vraiment encore plus ces dernières années, on a vu Romix, on a vu une autre dont j'ai oublié le nom, Mathieu Letty m'en voudra pas trop, j'espère. Voilà, exactement. Et effectivement, je trouvais ça vraiment cool. Alors, c'était trop tard pour moi. C'était définitivement trop tard parce que j'allais pas rentrer 700 bouteilles là-dedans. Mais je trouvais génial de pouvoir, un peu comme ça existe dans le vin, puis ça existe aussi sur Whisky Base ou quelque chose comme ça, où tu peux rentrer...
Voilà. Whisky Base, oui, oui, bien sûr. Oh, ça existe un peu dans tous les domaines aujourd'hui.
Je trouvais ça génial parce que vous allez me prendre pour un fou, mais ça m'est arrivé des fois de me dire « Ah merde, est-ce que cette bouteille, je l'ai déjà ou pas ?» Je ne sais plus. Et du coup, voilà. Heureusement que tu as un moyen de savoir ce que tu as dans ta collection.
C'est ça le moment où tu en as trop.
Et du coup, voilà. Alors, je sais pas, Quentin, toi, comment tu. Enfin, d'ailleurs, est-ce que tu listes tes bouteilles ou pas spécialement ? Est-ce que tu tiens un inventaire ?
Non, il nous l'a dit tout à l'heure. Quand il range, il redécouvre des trucs dont il ne savait pas l'existence.
Ouais. J'ai une liste générale, mais. Non, et puis comme tu dis, Romix, c'est très beau, c'est très bien fait, mais
c'est ça.
Qu'est-ce que ça reprend du tort si tu veux commencer à...
Si tu veux bien faire ça
au début, c'est-à-dire que...
C'est-à-dire que ça prend du temps une fois. Pour les personnes qui commencent à acheter un peu du rhum et qui veulent avoir leur collection, c'est la meilleure application du monde, mais...
Je
n'ai pas le courage.
Oliver le sait très bien, j'ai complètement... abandonner l'idée, et c'est dommage parce qu'effectivement c'est un regret, c'est que j'aurais vraiment aimé effectivement que cette appli existe quand j'ai commencé le rhum, je me serais éclaté. J'ai eu le plaisir de commencer la bière avec Untappd, et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis hyper heureux d'avoir cette espèce de banque de données qui retient les quasiment 4000 bières que j'ai dégustées dans ma vie, bières différentes, parce que des fois je me dis tiens, est-ce que j'avais bien aimé celle-là, est-ce que j'avais pas aimé, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que je l'ai goûté d'ailleurs, je sais même plus. Et du coup j'aurais rêvé d'avoir ça à l'époque, ça m'aurait, le gros geek que je suis aurait été encore plus geek.
Après, avec un peu d'assiduité, imagine-toi que tu rajoutes une bouteille par jour.
Ça me décourage. Non, parce que ce sera.
En plus, il aura oublié quelle bouteille il a mis.
C'est sûr. Alors, c'est sûr. Non, tant pis. En plus, mais oui.
Tu t'en auras bu en peu de temps, donc.
C'est ça, en non, plus, non. Ouais.
C'est pas possible.
Alors, Quentin, tu nous en parlais tout à l'heure, j'avance, parce que je vois que le temps avance aussi. Comment valoriser sa collection ? Alors, tout à l'heure, tu nous parlais justement par rapport à l'assurance, que toi, tu valorisais notamment par rapport à certains sites de vente aux enchères. Il y en a de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de ventes aux enchères, et qu'en plus, on commence à avoir de plus en plus de rhum aujourd'hui dans les ventes aux enchères, que ce soit via des sites comme Rhum Auctionneur, mais voire d'autres, en France et ailleurs, en Martinique également, depuis peu. Est-ce qu'il y a d'autres façons pour valoriser
que vous utilisez pour valoriser vos collections ou vos bouteilles?
Non.
Je pense que de manière globale, c'est peut-être une des façons les plus fiables, à moins qu'on en trouve encore chez les cavistes, et du coup, on peut utiliser ces tarifs-là pour valoriser certaines choses.
Ça, par contre, ça, c'est une évidence même, c'est que si une bouteille est toujours disponible chez des cavistes, elle ne peut pas valoir plus cher que le prix qu'elle est chez le caviste.
C'est ça.
Ça, c'est... Et d'ailleurs, je suis vraiment... pour en venir à un autre sujet, c'est que je suis contre ça. C'est l'achat chez des cavistes et la revente directement sur les réseaux seconds.
Alors, on l'a bien vu, ne serait-ce que cette année, avec un certain nombre de bouteilles qui sont sorties. Là, je prends la dernière en date, l'éphémère numéro 6, sortie au Rumfest de Paris... en rupture sur le salon, et malgré le fait qu'il y en avait encore 3000 qui étaient en circulation juste derrière, voire plus, 3500 qui allaient encore venir, mais on en retrouvait déjà sur certaines plateformes, sur certains...
Écoute, j'ai un ami à moi qui m'a envoyé un lien 20 minutes avant notre live. C'était donc les trois premiers éphémères sur Internet, en boutique en ligne, ouais. Pas le nom. Et le prix affiché, je pense que c'était 600 €, remisé à 569 €. Donc, t'avais une incroyable ristourne qui te permettait d'acquérir ces bouteilles absolument intouchables.
Cadeau.
Pour la modique somme de 560 balles. Ouais.
La bonne affaire.
Ouais.
Alors, et t'as sauté dessus, du coup?
Avec une seconde. Je les ai même doublés. Non, mais je pense que les gens qui sont comme nous, qui sont devenu collectionneur par la force des choses, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que quand on achète plus de bouteilles que ce qu'on peut en boire, ben forcément ça s'accumule. Et
ça reste à prouver. Ça reste à prouver, mais ok.
Ah. Et que tu te retrouves à un moment où tu as des bouteilles qui prennent de la valeur par la force des choses, et au moment où tu les prends, ben, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est comme une certaine somme d'argent maintenant, est-ce que l'ouvrir et la craquer, c'est pas un peu indécent? Alors, je le fais sur certaines bouteilles, parce que quand j'en vis, je ne me prive pas. Mais il ne faut pas tomber dans... Il ne faut pas confondre le gars qui collectionne et qui forcément a des bouteilles qui arrivent à certaines valeurs. Et des gens qui écument les cavistes pour trouver... Par exemple, bêtement, les derniers HSE de la confrérie, où ça a été la guerre pour les avoir, bah, les gens cachettent. Et puis, bah, deux jours après, tu les vois sur les réseaux sociaux à 175 balles. Ben, moi, je me permets de faire la remarque là-dessus, parce que les cavistes, ils jouent tous le jeu pour que tout le monde puisse avoir les bouteilles au bon prix. Et derrière, il y a des mecs pour se faire 30-40 balles, ben, non, ils font ça, ils trouvent ça cool.
Je suis entièrement d'accord, mais c'est quelque chose, malheureusement, de très très difficile à régler, à surveiller. Et puis, alors, je sais que je prends l'exemple de Vélier qui essaie de combattre ça un peu avec le groupe Facebook qu'ils ont mis en place pour ça, mais ça aussi, c'est du travail, c'est du temps. Faut qu'il y ait un suivi derrière, etc. C'est pas toujours évident. Alors oui, même ça, les gens essaient de gruger en effaçant les numéros de série, en floutant les trucs sur les photos. Enfin voilà,
je pense que ça.
Mais voilà, c'est vraiment vraiment pas évident. Je sais que ça a été un sujet à un moment donné sur la confrérie, notamment à la sortie de... Alors pas que les dernières HSE, mais même avant ça sur d'autres références, comme quoi on surveillait pas assez, etc. Mais d'un autre côté, bah c'est pas forcément
dans vos capacités, ouais, aussi bien sûr.
Dans nos cordes. C'est on n'a pas les moyens techniques et ni le temps d'ailleurs de suivre chaque achat et chaque bouteille numérotée, de voir chez qui elle va atterrir. Et puis, et d'un autre côté, j'ai envie de dire, ça nous...
C'est vrai aussi. Alors après,
je n'ai pas à savoir et je ne veux pas savoir qui acquiert les bouteilles de la confrérie. Je veux dire, alors quelque part, demain, je m'en fous. Tant que ça fait plaisir à quelqu'un, tant mieux. Après, malheureusement, dans les gens qui achètent, bah, il y a aussi des spéculateurs, des gens un peu moins bien attentionnés qui, bah, encore là, comme tu l'as dit, hein, la HSE, elle est sortie et dès le lendemain, on l'a vu pour trois fois plus sur eBay.
Ouais. Mais ce que je dis, c'est vraiment, faut pas confondre les bouteilles de collection, des bouteilles qui sont sorties il y a 10 ans, 15 ans, et des bouteilles qui sont sorties il y a un mois, deux mois, un an. On parle pas des mêmes produits.
Alors, nous, on en a fait un petit peu déjà des bouteilles de collection. Hein. Je veux dire, à partir du moment où c'est limité, c'est voué à devenir une bouteille de collection, quelque part. Hein.
Oui, tout à fait. Oui.
Mais je me souviens que...
Tout à fait, tout à fait.
J'ai constaté plusieurs petites choses ces dernières années. Une, à l'époque où, effectivement, Je ne concevais pas le concept même d'une collection entière de bouteilles fermées. Pour moi, c'était inconcevable. Maintenant, je le conçois beaucoup plus parce qu'après tout, effectivement, chacun est libre de collectionner ce qu'il a envie, même si, bon, il y a un produit de plaisir de bouche à l'intérieur, bah, après tout, tant pis si la personne se prive de ça. Et je me souviens d'un copain qui nous écoute assez souvent, d'ailleurs, sur le podcast. Je comprenais pas comment il pouvait me dire que la bouteille de Skeldon 78, qui était de son année de naissance, alors je sais que j'en ai déjà parlé, je radote un peu, eh bien, il avait prévu de l'ouvrir, et puis maintenant, il ne concevait plus de l'ouvrir, vu le prix les sommes que ça atteignait. Et lorsque je m'agaçais ou je m'offusquais devant ce discours, il me répondait, et aujourd'hui, je le comprends, c'est marrant, peut-être il m'a fallu, grandir un peu aussi, sur mes idéaux ou autres, ben il me disait, écoute, je gagne pas 100 000 balles par an ou 10 000 balles par mois. Et en fait, un peu comme tu disais tout à l'heure, Quentin, s'il se passe quelque chose dans ma vie, si demain ma baraque prend feu ou quelqu'un de ma famille est dans une précarité terrible et que j'ai besoin de débloquer 50 000 balles, ben en fait, ouais, ça me fera chier, mais je la vendrai en fait, parce que c'est de l'argent disponible maintenant.
Je pense que c'est une question de philosophie.
Bien sûr.
Chacun fait comme il veut, hein, bien évidemment, mais je pense que c'est plus une question de philosophie où, à la base, la bouteille, tu l'as achetée pour une certaine raison. Moi, pour ma part, parce que bon, je suis passé par là également, bouteille chère ou pas, à un moment donné, j'ai souhaité avoir une bouteille, c'était pour l'avoir. C'était pour goûter. Et peu importe la valeur qu'elle va prendre, au contraire, bah, ça va peut-être rajouter même le plaisir que je vais avoir à la déguster, je la dégusterai. Je ne suis pas trop dans ce truc-là. Après, voilà, c'est une philosophie de dégustation. Ça reste un produit de dégustation et je veux pouvoir le déguster. Voilà, je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas collectionneur et je ne suis pas dans le délire d'utiliser ça comme un futur produit financier.
Je comprends aussi.
Enfin voilà, ça risque de décupler le plaisir que je vais avoir.
Après, tu as aussi les gens, et ça je l'ai vu récemment lors de mon dernier voyage en Martinique, qui, lorsque financièrement ils le peuvent, doublent la bouteille, en mettent une dans leur collection fermée, et puis en ouvrent une. Et tu vois, là, le badge 2 du Naisson 21, quand le copain est arrivé à la maison avec la bouteille, je lui dis, mais il faut quand même se rendre compte de la chance que j'ai que la bouteille soit ouverte et que ce soit pas open bar, mais tu vois, qui est justement un petit peu cette insouciance. C'est-à-dire ce moment où on oublie que chaque centilitre vaut plusieurs dizaines d'euros et au fait que, bah, voilà, ça reste du rhum et ça reste à la base un produit de plaisir et de consommation.
Ça reste un produit de plaisir.
Et c'est vrai que je trouvais ça génial. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent le prendre pour un fou, quoi, de faire ça. Mais tout comme, je pense, pour nous trois, on a certaines bouteilles ouvertes. Les gens disent, quoi, t'as ouvert ça? Mais, écoute, j'ai ouvert ça. Et puis voilà, ce sera à refaire. Je le referai, en fait. Ouais. Tu vois, moi, j'ai le plaisir d'avoir deux Skeldon ouverts à la maison. Mais écoute, je regrette pas. Oui, maintenant, ça vaut de quoi acheter une bagnole avec chaque bouteille. Mais je regrette pas, parce que chaque centilitre que j'ai bu, ou que j'ai offert, ou que j'ai partagé, etc., bah, ça a été un plaisir incroyable. Et puis, je m'en fous, en fait.
Et puis, parce que t'as déjà deux bagnoles, de toute façon.
Non, j'ai une trottinette. Et une voiture.
Oui, dans la généralité, toutes les bouteilles ne sont pas destinées à rester fermées. Moi, dans ma collection personnelle, j'ai tendance à penser que si j'ai un coup de folie un jour, j'ai pas de problème, les bouteilles elles ont été payées il y a longtemps. Si j'ai envie d'ouvrir une bouteille, je le ferai.
C'est ça.
Je vais pas me prendre la tête. Mais quand t'en as un certain nombre, c'est vrai que tu peux pas toutes les boire. Là, ce serait être fou de croire que tu peux le faire. Ou alors il faut inviter beaucoup de copains. Et j'en connais qui pourraient m'aider à
bon, on est là. Hein. On est là. Tu mets nos contacts.
Voilà, oui. Ici, par exemple, pour mes 30 ans, je sais que j'ai fait une dégustation où on a notamment ouvert un Caroni 92, un Caroni 74, des choses comme ça. Ben voilà, c'était avec plaisir. J'ai pas regardé J'ai pas regardé ce que je mettais, on s'est fait plaisir et puis point.
Mais, non, ouais, c'est sûr.
C'est pas tous les jours que tu fais ça, quoi.
Je pense que j'ai plus le défaut, peut-être, de la curiosité. Alors, pas un défaut, mais plutôt la curiosité du...
oui, c'est vrai. Ah, ça, ah, mais tu sais que ça, on l'a beaucoup dit, ça. On m'a dit, est-ce que.
Mais. Je pense que c'est plus ça en ce qui me concerne, c'est plus la curiosité finalement qui fait que bah, j'ai envie de goûter. J'ai envie de goûter. Bah, c'est mon côté de la passion se situe plus dans ça où j'ai envie de savoir quel goût ça a. Voilà, c'est même pas et souvent ouais, je sais que j'ai des bouteilles que j'ai ouvertes juste pour goûter.
Mais ça, tu vois,
il manque ça quoi. J'ai pas touché plus.
Moi, ça me fait penser. Je voulais savoir pareil quelque chose qui m'offusquait et que maintenant je peux comprendre beaucoup mieux. C'était des gens qui me disaient « Est-ce que tu peux me vendre un sample de ta bouteille qui est ouverte ?» Je dis « Mais tu l'as pas, cette bouteille-là ? » ?»« Oui, mais je veux pas l'ouvrir. » Ah ! Et en fait, au début, moi, ça me rendait fou, ce discours-là. Et les gens, bah, je leur disais « Bah non, en fait, t'en as une, tu l'ouvres, quoi. » Il dit « Ah oui, mais c'est pour savoir si j'aime ou pas. » Il dit « Non, dis la vérité, c'est surtout que tu veux pas ouvrir la tienne parce que probablement tu voudras la revendre un jour et que t'es quand même un amateur et que t'es quand même curieux et que t'aimerais quand même la goûter. » Mais avec le recul, bah, je me suis rendu compte que ça m'est arrivé aussi de le faire. Alors pas sur des bouteilles forcément rarissimes ou quoi que ce soit, parce que ce sont des bouteilles rarissimes. C'est quand même très rare de les voir ouvertes. Et puis bien souvent, je fais partie des gens qui les ouvrent. Donc comme ça, la question se pose pas. Mais c'est vrai que je peux davantage comprendre ce souhait-là, quoi, de, encore une fois, d'avoir envie de goûter, mais pas avoir envie d'ouvrir trop. Parce qu'il y a aussi ça. Et ça, vraiment, pour le coup, là, je me suis calmé. C'est les ouvertures compulsives. C'est le côté, comme tu disais, Benoît, « Ah, je veux goûter ça. Allez, on l'ouvre. Paf !» Et au final, bah, tu la bois une fois. Et en fait, tu bois une fois 300 bouteilles. Ouais. Et du coup, tu as 300 bouteilles ouvertes, comme c'est mon cas. Et du coup, bon, bah, voilà, voilà.
C'est intéressant ce que tu as dit avec la personne qui t'a, qui t'a dit, c'est pour savoir si j'aime ou pas. C'est vrai qu'à un temps, on pouvait se dire, bah, t'es con, si tu l'as acheté, c'est que tu l'aimes. Mais on vit actuellement dans une période de rhum où si tu n'achètes pas, quand tu la croises, avant de l'avoir goûté,
Ouais, moi aussi.
Donc là, je peux encore plus le comprendre aujourd'hui. C'est que les mecs, ils chassent comme des fous furieux pour avoir les bouteilles qui sortent. Parce que c'est ce que tu dois faire, sinon tu les rates. Et une fois qu'ils l'ont acheté, ils se disent, bah, je vais peut-être la goûter avant de la ouvrir. Parce que si j'aime pas, voilà. Donc là, je peux le comprendre. Mais ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on avait la chance de pouvoir. Alors, plus facilement, les bouteilles... Mais bon.
Alors,
si... Okay, l'époque révolue. Pour voir du nouveau, il y a moins de problèmes d'approvisionnement.
C'est vrai.
Alors, pour
ceux, très beau aujourd'hui,
pour ceux qui, aujourd'hui, souhaiteraient éventuellement se lancer dans la collection de rhum, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillerez encore? Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Ou est-ce que c'est trop tard?
Ça, c'est une question que j'ai eu envie de vous poser et de nous poser, parce qu'en fait, j'ai reçu des messages privés ou des messages sur mon blog de gens qui me disaient « Est-ce que vous me conseilleriez d'investir dans le rhum ?» Mais vraiment comme si quelqu'un me disait « Est-ce que tu me conseilles d'acheter effectivement des actions du Rotunnel ou d'LVMH ? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup ?» Écoute, je ne savais pas quoi répondre, parce qu'à la fois, je trouvais ça con, mais en final... C'était moi qui étais un peu con de pas comprendre que c'est une réalité. Oui, ça, c'est malheureusement une valeur, ça reste des produits de valeur dont la valeur se bonifie. Donc, la question est légitime. Moi, je m'offusquais, comme d'habitude, un peu chevalier blanc, à trouver ça con, etc. Mais au final, la question est légitime. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de la poser, parce que moi, je suis complètement contre la spéculation. Je ne réfléchis pas comme ça quand j'achète des bouteilles. Je réfléchis en termes de plaisir quand je les ouvre ou de collection parce que je suis un peu con et qu'il me faut tout en mode Pokémon, etc. Mais au final, puisque la question est légitime, elle mérite d'être posée. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il est bien trop tard pour investir dans le rhum, même s'il est jamais trop tard. Oui, si on dit j'ai des capitaux illimités et que j'achète une collection de Caroni pour 500 000 euros, dans 10 ans, il est très probable que ce sera rentable et qu'il y aura une belle plus-value. Mais puisqu'il y a très peu de personnes qui ont des capitaux illimités, la question c'est est-ce que toi Benoît, toi Quentin ou moi Olivier, avec l'argent qu'on gagne tous les mois, si aujourd'hui on avait zéro bouteille de rhum et qu'on avait... voilà, l'envie d'investir dans le but de spéculer et de revendre, moi, pour moi, c'est trop tard. Là, c'est complètement trop tard.
Nous, on en a fait notre spécialité.
Donc, c'est intéressant.
Les collections, on rachète des bouteilles à des personnes privées. On les revend. Alors, il faut bien garder en tête qu'on a un shop, donc on a des taxes, on a de la position, et donc forcément, les prix reflétés ne sont pas toujours les prix qui sont du marché. Des fois, on est beaucoup plus cher, mais on n'a pas trop de problèmes à les vendre. Donc, je pense que de l'argent, il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui seront prêts à investir des sommes dans des bouteilles. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que aujourd'hui, prendre tes 2-3 000 euros, aller les mettre à la banque, ça ne sert pas à grand-chose. Donc pourquoi pas le mettre dans une bouteille qui, au final, ne dévalorisera pas. Alors, je n'encourage pas les gens à le faire parce que, voilà, c'est vrai qu'on est avant tout passionné et qu'on n'aime pas ça. Ouais, je pense pas qu'il est trop tard. Si on a les moyens de le faire, il est pas trop tard. Alors, c'est pas le. Si on regarde à ses finances, c'est peut-être pas l'idée de l'année de le faire. Il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, de prendre son pied et de se donner le temps de découvrir l'Europe.
Non, c'est aussi pour ça que je suis très heureux que tu sois avec nous, voilà. Parce que comme je te le disais, t'as la double casquette. T'es amateur collectionneur, mais t'es aussi professionnel. Je me souviens de Alexandre Bedet d'Excellence Rome, qui se faisait bien souvent. Gros bisous, Alex.
Il nous regarde d'ailleurs.
Il doit être à Stockholm, j'ai cru voir passer ça.
Bref.
Le fait est que je me souviens de l'avoir vu être interpellé sur les réseaux sociaux, sur des tarifs, et où en fait, bon, non seulement personne l'obligeait à justifier, mais où il avait exactement le même discours que toi, quand en disant « Attends, tu sais pas à quel prix je l'ai acheté ?» Et puis derrière, pour le remettre en vente, voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte et qui font que le tarif, c'est celui-là. Et puis en plus, je vais pas la revendre juste pour faire plaisir à quelqu'un. Ouais. C'est mon métier, c'est comme ça que je gagne ma vie aussi. Donc forcément, il va falloir qu'il y ait une marge. Alors après, oui, la marge peut être plus ou moins grosse. Après, c'est une question privée. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais du coup, pour le coup, voilà, pour moi, c'est quelque chose que je trouve aussi tout à fait légitime. Et là aussi, je lui jette pas la pierre, je te jette pas la pierre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une toute petite anecdote. L'adresse gourmande en banlieue 78, si je dis pas de conneries. Alors, je sais plus si c'est le cas maintenant. Bref, j'espère que ça ne lui attirera pas de problème que je dis ça, mais je pense pas qu'on ait une audience jusqu'à des hautes sphères quand même. Mais je me souviens que lui avait le caviste, qui est hyper sympa, je nommerai pas quand même, un peu de confidentialité, lorsqu'on voyait certaines bouteilles non étiquetées, parce qu'effectivement, il y a pas mal de cavistes maintenant qui ont des bouteilles plus ou moins rares où le prix n'est pas affiché. Alors, il paraît que c'est illégal en France, mais il y en a quand même beaucoup de caves, effectivement, qui le font.
C'est illégal.
Et ou alors il y a écrit nous consulter pour connaître le prix, etc. Et en fait, eh bien le prix était un petit peu à la négociation, quoi. C'est-à-dire, pour toi, quel est le bon prix? Moi, je me souviens d'avoir acheté effectivement, ça devait être une Chantal Comte, si je dis pas de conneries, chez lui. Et il me disait, pour toi, quel serait le bon prix? Et donc moi, je lui disais un prix. Et en fait, il cherchait pas à négocier forcément à la hausse. Si le prix que je lui disais lui semblait pas déconnant, il disait ok, c'est bon pour moi. Ce qui, bon, j'imagine, n'est pas très carré, voire pas très légal comme façon de faire. Mais du coup, je trouvais qu'il y avait ce côté où tout le monde s'y retrouvait. C'est comme quand on achète au marché secondaire. Le bon prix d'une bouteille, c'est le prix qui convient à l'acheteur et au vendeur. Il n'y a pas autre chose pour définir un bon prix que ça. C'est que les deux parties s'y retrouvent et soient contentes et se serrent la main et se disent « Trop bien, je me suis fait un billet. » Et l'autre « Trop bien, j'ai récupéré la bouteille sur laquelle je lorgnais depuis X temps. » quoi.
Oui, puis le débat, il est éternel. Hein. Qu'est-ce que c'est une bouteille trop chère? Parce que moi, je te donne l'exemple. À l'époque, Hubert avait embouteillé un magnifique Hamden 35 ans d'âge avec Old Alliance. J'ai eu la chance de pouvoir en récupérer une au magasin au prix d'achat. Donc le mec est venu me la revendre au prix d'achat. Bien évidemment, moi, je ne peux pas la revendre à ce prix-là, sinon, du coup, je la vends à perte. Donc, tu pars du principe que tu as déjà 21% de TVA dans notre douce Belgique. À ça, tu rajoutes forcément la marge du caviste, parce qu'il faut qu'on vive, et là-dessus, tu es imposé. Donc, bah ouais, le prix fait x2 quasiment, et c'est normal. Donc, moi, je préfère l'afficher sans complexe, et qu'on me dise que je suis trop cher, et puis voilà, mais au moins, je le cache pas. Et voilà, peut-être qu'un jour, quelqu'un passera à la porte, ça fera un moment.
Alors, justement, ça a été ma question, c'est est-ce qu'elle a été vendue depuis ?
Non, elle n'a pas été vendue. Elle a été, j'ai eu des touches, quelques personnes me l'ont demandé, mais malheureusement, je ne fais pas d'échanges. Des choses magasins, pareil, tu vois, des choses comme ça. Donc,
après, je ne sais pas si tu as prévu de réévaluer son prix annuellement, mais si tu ne le fais pas, c'est comme ça que moi, j'ai eu le plaisir, mais vraiment, c'est une histoire vraie, de tomber sur une bouteille trop chère à J0, y repasser un an plus tard, le prix n'avait pas bougé et ça devenait une bonne affaire. Et de l'avoir acheté à ce moment-là, en me disant, bon, bah, j'ai pas perdu d'argent, mais bon.
Quand, juste avant la remise du magasin, il avait mis un fût de Caroni sur le comptoir et il vendait un Caroni à ce poste de mémoire, c'était 550 €.
Ouais.
Les boucliers se sont levés, on l'a traité de tous les noms à l'époque. Non seulement l'expérience était pour moi géniale, parce que c'est pas tous les jours que je peux t'embouteiller une bouteille directement d'un fût de Caroni. Mais aujourd'hui, il y a des embouteilleurs que je ne citerai pas qui te sortent un beau packaging coloré qui te propose de vendre des bouteilles à 2 000 €. Ben voilà, c'est, au final, c'est qui le voleur derrière ? Tu vois ce que je veux dire ? Quand un homme d'un 35 ans valait 595 et qu'aujourd'hui on te sort des 10 ans à presque 350 €, ben je pense que il faut que je pose la question. Il ne faut pas se dire la bouteille est belle, donc le prix est correct. Il faut se dire ce qu'il y a dedans, ça reste ce que c'est. C'est un homme d'un 10 ans. Hamden, ça fume. Bah voilà.
Et puis, pas les marchés évoluent. Les marchés évoluent, ouais, les prix fluctuent, donc c'est tout à fait normal.
Ouais.
Tout à fait. Je me souviens que en 2015, quand on a sorti l'embouteillage,
qui m'attend bien chercher,
la favorite, qui était un 95. Donc on parlait d'un 20 ans qui était vendu 200 € à l'époque.
Ouais, ça a mis du temps à partir un peu. Hein. Puis après, c'est fou. Parti pour de vrai.
Ça a mis un peu de temps à partir, alors qu'aujourd'hui quand on croise des bouteilles, c'est à des prix qui font deux, voire trois fois ça, quoi. Et là, par contre, ça choque personne. Donc voilà, je pense que le marché a évolué, les prix ont fluctué, certaines choses ont pris de la valeur, tout simplement. Et puis même les mentalités ont évolué aussi. Ouais.
Pour en revenir à l'Amden, par contre, elle sera ouverte au salon de Rome de Strasbourg cette année.
Ça tombe bien, je peux lui dire installer.
Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle pour le coup. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. On l'avait ouverte, nous, ici à Berlin, on en avait une. On l'a ouverte.
Ah oui, incroyable.
Il me semble.
J'ai eu le plaisir de la boire.
Elle a été vidée assez rapidement.
Porte ouverte, aux dernières portes ouvertes à l'époque où c'était Corman Collins. Effectivement, les journées portes ouvertes, et il y en avait une pareil au stand de collector. Putain, quel délire ce. Ah ouais. Je regrette de ne pas l'avoir acheté à l'époque où pareil, c'était, ce que tu disais, 500 €, quelque chose comme ça. Voilà. Et où aujourd'hui,
595 €,
hey, c'était pas si cher. Après, c'est vrai, il y a des gens qui ont un coup d'avance et qui luttent contre la spéculation aussi en se disant « je prends un peu d'avance sur ce que ça vaudra ». Alors bon, oui, effectivement, les deux Caroni Paradise à 3000 balles chacun, ils ont pris beaucoup d'avance, effectivement. Et puis là, on m'a envoyé un lien sur un Diamond 88 vendu sur je ne sais plus quel site italien, Distilla ou quelque chose comme ça. On est à 300 000 €. Alors lui, il a pris beaucoup, beaucoup d'avance. Je ne sais pas si ça atteindra d'ailleurs un jour vraiment ce chiffre-là.
Même plus d'avance à ce niveau-là.
C'est assez marrant à voir comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je tenais un peu ce discours en disant que c'est un peu trop tard. C'est-à-dire que même les gens qui se disent « je vais investir dans Caroni Paradise », c'est un bon plan. Oui, c'est sûr que Caroni Paradise à 3000 balles la bouteille, dans 10 ans, ça en vaudra sûrement je ne sais pas combien de fois plus, mais... Très sincèrement, t'as envie de dire, je sais pas, bon, même si c'est pas les mêmes sommes, mais investi dans de la pierre, investi dans, j'en sais rien, dans des trucs qui sont, je sais pas, enfin bon, après, c'est mon avis. Mais par contre, effectivement, là, je rejoins Quentin, si t'as envie de te faire plaisir, il est pas trop tard pour acheter du rhum, il est pas trop tard pour ouvrir des bouteilles, il est pas trop tard pour faire une folie et s'acheter une bouteille à 3000 balles, il est jamais trop tard pour ça, mais vraiment le côté, est-ce qu'il faut investir là-dedans et pour se faire une rente? Bah ouais, il y a 10 ans, même encore peut-être 5 ans, mais bon.
Ah oui, bien sûr. Mais puisqu'on me posait
après,
la question...
Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent, en même temps.
Mais je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut aussi éduquer les gens. Faut pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent envers et contre tout, bouteille noire.
Ah non,
c'est le paradise. Je l'avais pas cité, mais voilà, à 3000 balles. Je pense pour un 16. Il y a un très bon embouteilleur qui s'appelle Bristol, qui fait des Caroni 97 pour 350 balles et ils sont géniaux.
Ouais.
Donc pourquoi bouder les bouteilles parce que l'étiquette est moche et qu'au final la bouteille est moins sexy que celle de chez Vélier? Bah à ce moment-là,
des marques. Ouais,
on n'est plus vraiment dans le rhum. On achète vraiment des objets d'art. Et
on achète. Bah,
et c'est un peu détaché du rhum et faut dire que c'est pas ça qu'on achète. Donc
c'est un peu pour ça que c'est un peu que pour ça que beaucoup de marques se sont mis à utiliser des bouteilles noires aussi. Autre que Vélier. Je veux dire, ce type de bouteille a été utilisé et réutilisé par un grand nombre d'embouteilleurs indépendants par la suite, dans le rhum, mais pas que. Mais pas que. On en a retrouvé dans l'Armagnac, on en a retrouvé dans le whisky, enfin voilà. C'était parce que la fameuse bouteille noire était devenue gage de...
Faut lui rendre aussi... ces étiquettes sont magnifiques, hein, les vieilles photos noir et blanc, c'est superbe. Les vieux Demerara, le côté, moi j'adore les bouteilles Vélier, je trouve ça vraiment magnifique. Mais qu'est-ce qui justifie au final le papier et le carton de passer de 400 balles à 3000 ça fait cher le carton, je sais pas où il le fait faire. Mais...
Cher le carton. On va tout doucement clôturer cette émission parce qu'on a dépassé de pas mal là déjà.
On aura d'autres épisodes.
De tous les sujets que tu m'as dit, heureusement Olivier. On aura d'autres épisodes, effectivement, mais pour conclure cette émission, le mot de la fin, Quentin et Olivier, si vous aviez peut-être un conseil quelconque à donner à nos spectateurs, auditeurs qui nous écoutent concernant leur collection ou des collectionneurs en herbe ou quoi que ce soit, concernant les arnaques ou quoi, un dernier conseil pour clôturer cette émission, ce serait quoi?
Faites-vous vos propres avis. N'écoutez pas ce qu'on dit, ne lisez pas ce qu'on dit. Chaque palais est différent, on est tous prêts à un autre moment. C'est pas parce que votre voisin sait boire à Caroni que vous saurez le boire. C'est pas parce qu'il trouve que c'est bon que vous trouverez ça bon. Donc achetez des bouteilles, laissez-vous conseiller par vos cavistes. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà. N'achetez pas pour acheter envers et contre tout. Il y a des très bonnes bouteilles qui sont pas chères. Il y a des très bonnes distilleries qui sont pas chères. Faut pas jurer que par Caroni et Vélier, il y a d'autres choses.
Moi, je rendrai hommage à un ami qui se reconnaîtra s'il nous écoute, qui m'a dit quelque chose aujourd'hui que je trouve terriblement juste et qui, puisqu'il est collectionneur comme moi et comme nous, Quentin, me parle beaucoup maintenant, puisque j'ai fait le deuil de deux collections en l'espace d'un mois, et crois-moi que quand t'es collectionneur, ça te fait vraiment mal au cœur. Ça peut paraître vraiment débile, hein. Les gens se disent, ouais, mais si ça reste des biens matériaux, matériels, pardon, je peux plus parler à cette heure-là. Pourquoi est-ce que ça te ferait mal au cœur? Ben oui, quand t'es collectionneur, ça te fait mal d'abandonner une collection. J'ai abandonné la collection Wild Parrot parce que le dernier qui est sorti, avec la maison du whisky pour le Whisky Live me semblait trop cher. Et j'ai dit, là, ça y est, ça suffit. Tant pis, j'arrête. J'abandonne la collection, même si j'adore Stefano Cremaschi, que c'est un copain et que je trouve ses embouteillages bien souvent cool et ses packaging magnifiques. Mais voilà, j'ai fait le deuil. Et l'autre, c'est les fameux Hamden, Endemic Birds de chez Vélier. Là, c'est pareil. Je suis arrivé à un moment où je pensais pouvoir avoir les nouveaux par un biais qui fonctionnait bien. On m'a dit que non. Et là, j'ai compris qu'en fait, ça y est, c'était terminé. Il fallait s'arrêter, que c'était plus possible, quoi, tout simplement. Et bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, désolé, je m'étale, que c'était pas un conseil, c'était plus une prise de conscience et que je partage totalement quand il me l'a dit. C'était le fait de dire que aujourd'hui, il faut pas vouloir tout acheter et que du rhum et des sorties, il y en a tout le temps et qu'il faut simplement se dire, bah, si j'ai raté cette nouvelle release, cette nouvelle sortie, ce nouvel embouteillage, c'est pas grave, j'aurai la prochaine. Voilà. Et ça, pour un collectionneur, je pense que c'est terrible de se l'avouer, c'est terrible de se le dire, et c'est terrible d'arriver au stade où tu te rends compte que non seulement il a raison, mais en plus, oui, c'est possible. de ne pas tout acheter et de et de quand même continuer à collectionner en fait. Et ça, je pense que c'est la maturité. Mais la personne se reconnaîtra.
Bah écoutez messieurs, merci beaucoup pour ces petits conseils. On va donc clôturer cette émission sur ces jolis mots, en espérant que ça vous ait plu, bien évidemment, chers auditeurs. Et n'hésitez pas surtout de laisser quelques commentaires, de suivre cet épisode si vous l'écoutez en replay sur toutes les plateformes à partir de ce dimanche, que ce soit sur YouTube pour la partie replay vidéo ou sinon sur toutes les autres plateformes de podcast audio, type Spotify, iTunes, etc. Et puis sinon, on se retrouve dans 2 semaines avec une émission un peu particulière et avec un autre invité que
on va citer.
Il y aura
parler.
Notre très cher Alexandre Bedet qui sera avec nous. Pour on en parlait justement pour un sujet très cubain, mais on en dira pas plus, on en reparlera d'ici là.
Il n'était pas là la semaine dernière.
Effectivement, il devait être là il y a 2 semaines et finalement il ne l'a pas été.
Bon, ça,
c'est pour ça qu'il fera l'effort d'être là la prochaine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup.
En vous souhaitant
une agréable soirée et en disant à bientôt. Bye bye.
Le Singlecast vous a été présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïnou.